Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Toby Nathan qui a publié l'an dernier Ethnoroman aux éditions Grasset et qui en France a popularisé l'œuvre de Georges Devreux qui est à l'honneur du dernier film d'Arnaud Desplechin, Jimmy P, psychothérapie d'un indien des plaines. Je vais raconter brièvement le film. C'est donc la rencontre entre Georges Devreux et un indien de la tribu Blackfoot, Jimmy Picard, qui présente des symptômes inexpliqués, symptômes qui sont apparus après un choc qu'il a reçu à la tête pendant la Seconde Guerre mondiale. Jimmy Picard est soigné dans la clinique du docteur Karl Menninger, qui elle-même fait partie de l'hôpital des vétérans de guerre à Topeka, donc au Kansas. Devreux, qui est alors apprenti psychanalyste à New York, est appelé par Menninger à Topeka pour tenter de soigner celui qu'on appelle le malade en bonne santé, parce que la batterie de tests qu'il a passée n'a rien donné du tout. Et on attend de lui qu'il mette à profit sa connaissance du monde indien pour faire parler le taciturne Jimmy Picard, qui est incarné à l'écran par Benicio del Toro. Toby Nathan, vous avez donc très bien connu Georges Devreux, vous racontez cela dans votre livre, vous avez son séminaire, est-ce que vous pouvez nous parler de lui un petit peu?
C'est difficile de parler de Georges Devreux parce que c'est un personnage tellement complexe et puis surtout un personnage à facettes, donc il présentait une facette, c'est souvent les immigrés, ils sont comme ça, c'est-à-dire il présentait une facette aux gens qu'il connaissait, à ceux qu'il connaissait moins, enfin etc. Et puis surtout... Lui, c'est un juif hongrois. Il est arrivé de Hongrie en France d'abord. Il avait une vingtaine d'années. C'était 1928, la première fois qu'il est arrivé en France. Il s'est tiré de chez lui, quoi, parce qu'il n'en pouvait plus. Il ne supportait pas sa mère. Son frère s'était suicidé. Enfin, c'était toute une affaire comme ça. Puis surtout, il avait une sorte de rêve de voyage, quoi. C'est un explorateur, mental déjà, et physique aussi, c'est-à-dire qu'il s'est baladé un peu partout. Et c'était aussi, il faut vous dire, c'est un personnage de l'Autriche-Hongrie d'avant la guerre, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui parlait 8 langues, qui connaissait le grec, le latin, etc., qui parlait des langues bizarres, parce qu'il est allé sur le terrain en Malaisie, parlait le malais, il parlait le moï, le sedang moï des montagnards d'Indochine, vous voyez. Donc il parlait 8 langues, c'est un personnage aussi complexe que ça. Et puis surtout, c'est un personnage, qui était omnubilé par deux choses. Par l'intelligence, mais il ne le disait pas, c'est-à-dire, ça se sentait, quoi. C'était quelqu'un qui détestait la banalité. Mmh. Et donc, chaque fois qu'il parlait, c'était pour dire quelque chose de nouveau, quoi, quelque chose d'original.
Oui, vous dites, son esprit crépitait comme un feu d'artifice, j'ai retenu cette expression.
Oui, non, c'est vrai, c'était comme ça. Et c'était frappant, quoi, d'avoir quelqu'un comme ça en face de soi, parce que c'est le contraire des intellectuels que j'ai rencontrés à ce moment-là, dans les années 60 en France, qui étaient tous des gens, des idéologues, quoi. Ils appliquaient une idéologie. Devreux, jamais, il n'avait pas d'idéologie. Justement, s'il en avait une, c'était de ne pas en avoir, quoi. Et donc, il inventait des choses sur tous les événements du monde, quoi. Et c'était ça qui était passionnant chez lui. Mais c'était un dissimulateur. Mmh. Je disais, c'est fréquent chez les migrants, parce que les migrants, ils arrivent dans un endroit, on ne les connaît pas, donc... Ils se présentent sous le jour de leur fantasme, si vous voulez. Donc, ils nous racontaient qu'il était... D'abord, il disait pas qu'il était juif. Et il a nié pendant très longtemps. Et puis, enfin, jusqu'à la fin, d'ailleurs. Et puis, il disait qu'il descendait d'une famille française. Devreux, c'était un nom français, etc. En fait, il avait changé de nom. Il s'appelait pas Devreux.
Il s'appelait comment?
Il s'appelait Dobo. Mais c'est très étrange, parce que même son nom, c'est un faux nom aussi, quoi. C'est-à-dire que son père avait changé de nom déjà. C'est un peu comme dans la blague du juif qui s'appelle Dupont, et on lui dit « comment tu t'appelais avant ?» quoi. Et c'est un peu l'histoire de Devreux, quoi. C'est-à-dire qu'il s'appelait probablement, on ne sait pas exactement le nom du père, avant le premier changement de nom, probablement Weissmuller, comme Tarzan. Qui d'ailleurs vient exactement de la même région, Tarzan. Il vient de la région du Banat, qui est proche de la Transylvanie, quoi, cette région qui était hongroise, ensuite roumaine, enfin bon, où il y avait une grosse population juive, hein, qui a beaucoup souffert pendant la guerre d'ailleurs. Hein, c'est une des populations qui a le plus souffert pendant la guerre. Et donc, lui, il est parti avant-guerre. Hein, et donc, il racontait comme ça qu'il s'appelait Devreux et qu'il était un Français de souche, quoi. Il avait des fantasmes comme ça. Je sais, j'ai appris par la suite qu'il avait aussi des fantasmes d'aristocrate aussi, c'est-à-dire il voulait se faire passer pour une grande famille française, il était lié au Clermont-Tonnerre, c'est la famille du comte de Paris, vous voyez, la famille royale, quoi. Donc il avait toute une série de fantasmes comme ça, et donc il se présentait sous ce jour-là. Et puis au bout d'un moment, on commence à douter, parce qu'il était à New York, il ne pouvait pas se faire passer pour qui il n'était pas, parce qu'il y avait plein de juifs hongrois à New York. Il le croisait dans la rue, il lui disait « Ah, Diodj, c'est comme ça qu'on l'appelait en hongrois, quoi. Ah, Diodj, qu'est-ce que tu fais là ?» Et ça rentrait. Et évidemment, il ne pouvait pas. Et moi, ça m'est revenu par New York, en fait. On m'a dit « Mais ton maître, là, c'est pas vrai qu'il s'appelle Devreux. Puis il est juif, ton maître. » Alors, j'ai posé la question. Je lui ai dit « Bah, Georges, bah, t'es juif. » Alors, il m'a dit « Mais jamais de la vie. Si j'étais juif, pourquoi je le cacherais ?» Mais il le cachait. C'était curieux, c'était comme ça, parce que en plus, c'était la France des années 70, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de raison de cacher son origine, quoi. C'était étrange. Et pourtant, vous savez, c'était quand même quelqu'un qui nous apprenait l'importance de la culture d'origine des gens.
Oui, tout à fait, c'est paradoxal.
Et lui, il cachait la sienne, quoi. Oui. C'était très drôle.
Oui.
Bon, c'était un personnage, c'est pour ça que je vous dis, c'est un personnage très complexe, extraordinairement intelligent et inventif, et en même temps dissimulateur. Puis il y avait une chose qui le caractérisait, qu'on voit bien dans le film, c'est sa passion pour les femmes. Il avait une vraie passion pour les femmes. Et cette passion, moi, je me l'expliquais comme il devait être animé par une sorte de fantasme d'être sauvé par une femme, quoi. Ça doit être ça qu'il y a derrière. Et donc,
que vous partagez avec lui à l'époque, en tout cas, quand vous étiez plus jeune, puisque vous avez fait votre thèse sous sa direction sur les communautés sexuelles.
Ouais, c'est vrai. Mais j'avais pas remarqué qu'il avait accroché à cause du sujet de ma thèse, quoi. Moi, j'étais venu avec ce sujet de thèse parce que c'était dans l'air du temps, hein. Après mai 68, il y avait des jeunes qui s'installaient en communauté, etc. Et donc, j'étais venu le voir en lui proposant un sujet de thèse. Et il avait tout de suite accroché, ça l'avait passionné, mon sujet de thèse. Il avait une sorte de passion pour les femmes et je pense qu'il était animé par un fantasme selon lequel il serait sauvé par une femme. Et donc, il était toujours avec une femme. Hein. Mais chaque fois qu'il envoyait une autre...
Oui, il s'est marié six fois.
Il s'est marié six fois. Puis alors, je ne vous dis pas le nombre de femmes, à part les femmes mariées, enfin, à part ses épouses, quoi. Et chaque fois qu'il en rencontrait une, il était prêt à abandonner l'autre, à partir avec celle-là. Hein. Enfin, c'était comme ça, c'était permanent, quoi. Et ça lui donnait une sorte de jeunesse perpétuelle, quoi, de mental, quoi. Parce qu'il avait beaucoup vieilli à la fin, mais c'était une jeunesse mentale qui m'impressionnait beaucoup. Et en même temps, c'était quelqu'un de totalement insécure tout le temps, puisque il s'est jamais installé.
Alors justement, il était complètement, hors norme, on va dire, inclassable. Il est à la fois donc ethnologue, il est formé à l'Institut d'ethnologie de Paris.
C'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça. Il a commencé pianiste.
D'accord.
Il était pianiste.
Puis chimiste, c'est ça ?
Il était d'abord pianiste. Il était un virtuose du piano. Et on voit ça un peu dans le film. C'est un virtuose du piano. Et puis il se fait mal au doigt. Il comprend qu'il ne sera jamais pianiste de concert. C'est ça qu'il voulait, devenir pianiste de concert. Et donc il abandonne et il part faire de la chimie. Il passe sa licence de chimie quand même. Puis avec Marie Curie, c'est un bon niveau, quoi. Il avait un très bon niveau scientifique aussi. Et donc, après, il trouve que ça ne l'intéresse pas vraiment, quoi. Et ce n'est pas là qu'il peut inventer des choses. Mais il est resté avec cette idée du prix Nobel. Devreux, si vous voulez comprendre Devreux, c'est « Au fond de moi, je suis un prix Nobel et on ne l'a pas remarqué, quoi. » Nous, les étudiants, on l'avait bien remarqué, mais je veux dire, on n'était que quelques étudiants. Et c'est pour ça qu'il avait fait chimie. Et quand il avait vu que la chimie ne pourrait pas non plus être exceptionnel. Son cousin était un physicien exceptionnel. Hein. Son cousin, c'est l'inventeur de la bombe H, la bombe à hydrogène. Donc, je veux dire, c'était dans la famille, quoi. Il y avait un truc comme ça. Et donc il avait cette espèce de rêve d'excellence aussi. Et donc après, on vient de fonder, en 1932, on fonde l'Institut d'ethnologie à Paris, c'est Marcel Mauss, avec Lucien Lévy-Brulé et Paul Rivet. Ils fondent l'Institut d'ethnologie et lui, il fait partie de la première promotion. Il passe sa licence d'ethnologie et là, il se découvre lui-même. Il dit « Ah ouais, c'est génial ça !» Et il l'envoie sur le terrain, chez les Moïs d'Indochine.
Comment il en vient à la psychanalyse ? Pour qu'on est obligé d'avancer un petit peu, parce que
ouais, non, mais
il a une vie tellement extraordinaire.
Hein. Ouais. C'est un peu compliqué, parce que il est plutôt hostile à la psychanalyse au début, et surtout sur le terrain, et c'est là où il y a des débats sur est-ce que la psychanalyse peut servir pour interpréter des faits qui appartiennent pas à la culture européenne, enfin, etc., qui est un débat encore actuel. Hein. Il est plutôt hostile à la psychanalyse au début. Et c'est après-guerre. Lui-même est un vétéran. Hein. C'est-à-dire qu'il s'engage...
Comme Jimmy Picard, ouais, comme son patient.
Il s'engage dans l'armée américaine en 41, parce qu'il veut combattre les nazis. Hein. Et donc, vous imaginez qu'est-ce qu'on fait d'un type... Il a déjà 35 ans, plus que ça même... Il n'est pas très vaillant physiquement, donc on va pas l'envoyer au front, quoi. Donc, comment on utilise quelqu'un qui parle 8 langues ? Bah, on l'utilise dans les services, hein, je veux dire. Bah, évidemment, c'est un ethnologue, c'est un intellectuel de haut niveau, tout ça. Et donc, on l'envoie en Chine. Et donc, quand il revient, il se demande quoi faire. Et il cherche un job, en fait. Il cherche un job. Et là, il a l'idée qu'il pourrait devenir psychanalyste. Donc, il commence... Et il dit, ouais, on peut devenir psychanalyste même si on n'est pas médecin. En France, c'est possible. Hein.
Mais pas aux États-Unis.
Non, aux États-Unis, c'est pas possible. Et donc, il commence une psychanalyse avec un psychanalyste didacticien en France, Schlumberger. C'était Marc Schlumberger. Il commence, il fait 6 mois. Et il a une proposition d'aller aux États-Unis. Donc, il quitte et il dit, je vais reprendre ma psychanalyse didactique aux États-Unis. Il demande à Marc Schlumberger...
De lui faire une lettre de recommandation.
Et Marc Schlumberger fait une lettre, c'est une horreur. Moi, il me l'a raconté, le contenu de la lettre, où il dit il faut surtout confier aucune responsabilité à cet homme qui est instable psychiquement, etc. C'est ça qu'il dit de lui. Et donc, quand il arrive à Topeka, qui est le seul endroit aux États-Unis où on peut devenir psychanalyste sans avoir été médecin, il a l'idée de venir se former à la psychanalyse. Il cherche un job, hein. C'est pas un choix intellectuel, la psychanalyse, c'est un choix professionnel. Et parce qu'il veut gagner sa vie, quoi. Il en a marre de crever la dalle. Il a crevé la dalle, hein, toute sa vie. Hein. Et donc, il cherche un job. Et il dit, je vais me faire former à la psychanalyse. Et il a des arguments. Il dit, bah, moi, je sais plein de choses. Hein. Je sais la psy, mais je sais aussi l'ethno, et je sais plein de trucs, etc. Et donc, il saute sur l'occasion quand on lui dit, il y a un patient, un Indien, et on ne comprend pas les symptômes qu'il a. Peut-être que les symptômes qu'il a sont d'origine culturelle. Et c'est comme ça qu'il rentre dans la psychanalyse. Et à Topeka, il fera deux choses. Hein. Il fera des psychothérapies, quelques-unes, il en fera deux ou trois, hein, pas plus. Mais ça va durer 7 ans. Il va rester 7 ans à Topeka. Et il fera sa psychanalyse à Topeka. À Topeka même. On le voit dans le film, à un moment, il est sur le divan.
Oui.
Avec
d'accord,
Yokel.
Ça se passe à Topeka,
et
d'accord.
Ça se passe à Topeka. C'est-à-dire l'essentiel de sa psychanalyse est
Yokel, qui était lui-même un juif d'Europe de l'Est.
Ah bah oui, mais c'est surtout que Yokel n'a écrit que sur les survivants d'Auschwitz, enfin des camps de concentration en fait. Il était obsédé par ça, Yokel. Il disait que c'était le principal problème des gens qu'il avait en analyse. Et les seuls textes qu'on a de Yokel, il a très peu écrit Yokel. C'est des textes sur les survivants. Alors, et il prend Devreux. Et c'est pour ça que quand on dit Devreux, il est en dehors des problèmes de la Shoah, c'est pas vrai. Il la frôle constamment comme ça. Il est tout près, il en parle pas, ou très peu, mais il est toujours tout près. Ce qu'on voit dans le film, c'est que Devreux invente, c'est ça qui s'appelle l'ethnopsychiatrie, il invente une façon de faire avec les patients qui n'existait pas. Il l'invente sans presque le savoir. C'est quand vous lisez son bouquin sur Jimmy Picard, qui s'appelait Reality and Dream, hein, Rêve et réalité, en fait. Hein, c'était le vrai titre du livre. Ensuite, c'était le sous-titre Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Et quand vous lisez ce bouquin, et surtout la dernière partie, là où il y a le compte-rendu des séances, vous voyez que pour soigner un Indien, en quelque sorte, je vais vous la faire courte, quoi, hein, pour soigner un Indien, il faut faire l'Indien, quoi. Et c'est-à-dire, il faut rentrer dans son monde. Et donc,
mais est-ce que ça, c'est pas juste pour favoriser le transfert qui fait ça?
C'est ce qu'il dit. Mais c'est pas ce qu'il fait.
En même temps, il a recours aux outils, on va dire, freudiens classiques, l'association d'idées, l'interprétation des rêves.
Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est un glissement que fait le film. Mais c'est pas ça qu'il y a dans le texte. Hein. Alors, ça, après, vous pouvez vous dire que le film est la vérité, mais c'est vrai qu'après, le film devient la réalité. Mais c'est pas ça qu'il y a dans le texte. Dans le texte, il y a un Indien chez qui... le rêve, c'est pour ça que ça s'appelle Reality and Dream. Le rêve, vous voyez, si vous faites raconter un rêve à un Indien, ça prend, je sais pas, au moins une heure et demie. Le récit du rêve. Hein. Si moi je vous demande de raconter un rêve, vous allez faire ça en 3 minutes et demie. Quoi, hein. Un Indien, vous lui demandez de raconter un rêve, ça va prendre 1 heure et demie. C'est-à-dire, ils vivent, leur culture est une culture du rêve. C'est Devreux même qui écrivait que c'est une culture du rêve. Et c'est-à-dire que dans le rêve, il se passe des choses plus réelles que ce qui se passe dans la vie. Un jeune homme, pour rentrer dans le monde, il se met dans un trou, en plein milieu du désert, dans un trou. Il ne mange plus, il ne boit plus, il se fait des souffrances physiques, jusqu'à ce que lui apparaissent dans une vision ses esprits protecteurs. Quand il aura ses esprits protecteurs, ils vont lui donner des objets qui vont aller remplir son sac à talisman. Et après ça, il va pouvoir rentrer dans la vie. C'est ça, un Indien. Et un Indien Blackfoot, c'est ça. Donc, Devreux, quand il interprète les rêves de l'Indien, il sait ça. Il sait qu'un rêve de Jimmy Picard, c'est ça qu'il contient au fond. Donc, il va le chercher à cet endroit. Bien sûr qu'il dit, parce que c'est un rapport pour l'institution psychanalytique, hein, son livre. Hein. Donc, il dit, j'établis le transfert. Mais en réalité... L'Indien Jimmy Picard, lui, Jimmy Picard, continue à penser jusqu'au bout que Devreux est un chaman indien. Hein. Et Devreux nous racontait en classe, hein, quand on était à son séminaire, il nous racontait qu'une fois, l'Indien lui a dit au revoir, et sur le pas de la porte, il lui a dit, écoute, une fois que t'es venu me voir en rêve, qu'est-ce que t'as fait après? T'es allé voir un autre patient en rêve? Parce que pour lui, s'il a rêvé de Devreux, c'est que Devreux s'était déplacé dans le rêve et était venu le voir dans son monde onirique. Donc il a fait l'Indien pour soigner l'Indien. Peut-être que lui pensait qu'il faisait de la psychanalyse, mais l'Indien n'a pas pensé ça une minute. Hein.
L'Indien peut-être, mais lui, là je relis l'introduction par exemple à la psychothérapie d'un Indien des plaines, il parle de standard absolu quand même.
Oui, bien sûr, mais ça c'est l'introduction de quelle année?
C'est la plus ancienne, c'est celle de 50.
Celle de 50?
Oui.
Il dit de
l'Indien, ces tests, les tests qu'on lui a fait faire, ouais. Hein, révèlent une structure de personnalité qui, quoique s'écartant beaucoup de la normalité selon les standards occidentaux, mais non selon des standards absolus, et il met ça en italique,
oui, mais vous
ressemblait
savez ce qu'il
pensait, à la structure de la personnalité technique de l'Indien des plaines, etc.
Tout ça, c'est des malentendus, on lit ça maintenant... Devreux est un psychanalyste américain des années 50. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on appelle psychanalyse chez nous. Quoi.
Vous l'expliquez bien qu'il y a un profond malentendu, entre Devreux et la psychanalyse française.
C'est un malentendu total. D'abord, il est formé par... il est formé dans ce monde-là, mais surtout ses amis intimes. C'est Chris, c'est Hartmann, c'est Loewenstein. C'est ceux qui ont construit... Le repoussoir de la psychanalyse française, hein, qui s'appelle le ego psychology, c'est-à-dire psychologie du moi. Et la théorie, d'ailleurs, on le voit très bien, hein, dans le fonctionnement de sa thérapie. Sa théorie, c'est qu'il faut renforcer le moi du patient pour qu'il puisse affronter ses pulsions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renforce son moi. On renforce son moi en disant quoi? Écoute, t'as vu ça? T'as vu un loup? Dans ton rêve, t'as vu un loup? T'as eu peur du loup? Eh ben, écoute, regarde-le. Affronte-le. Prends un couteau, va vers lui, tue le loup. Et il dit, quand je fais ça, je renforce le moi du patient. Je veux dire, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on appelle psychanalyse.
Malheureusement, on n'a pas le temps de prolonger ce débat. Alors, je voudrais juste que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que, finalement, l'ethnopsychiatrie peut apporter à des juifs, on va dire, traumatisés par la Shoah.
J'étais en train de vous dire, pour soigner un patient, pour soigner un patient, il faut rentrer dans son monde. Et donc, nous...
Dans le monde juif, donc, ça voudrait dire...
Alors, nous, on a créé une consultation d'ethnopsychiatrie. C'était en 1979, la première. Hein. C'est pas tout récent. Hein. Et donc, on a reçu les immigrés en France, on a vu les différentes vagues d'immigrés. Je commence avec les Portugais, ensuite avec les Maghrébins, ensuite avec les Africains, ensuite avec les Chinois, les Afghans. On a vu tous les immigrés français successivement se succéder dans notre consultation. Et toujours, on a proposé des espaces thérapeutiques à partir de leur univers. Et on a vu aussi une population. Du coup, on a compris qu'il faut proposer des dispositifs spécifiques pour des populations spécifiques. C'est là que Nathalie Zage a proposé une consultation spécifique pour une population qui avait des problèmes spécifiques. C'était les survivants des camps de concentration et surtout les enfants de survivants qui avaient une pathologie particulière. Parce que Nathalie Zage a fait sa thèse là-dessus, hein, sur le fait que la souffrance qu'ont vécu leurs parents se transmettaient de manière indicible, imperceptible, comme ça, impalpable, je dirais, à la génération suivante, et que donc il fallait leur restituer cet univers qu'ils ne connaissaient pas pour qu'ils puissent comprendre quels étaient les problèmes dont ils souffraient, en fait. Et donc on a...
D'accord. Les problèmes qui n'étaient pas liés uniquement à la Shoah, mais à l'avant, à la vie d'avant éventuellement, c'est ça, vous voulez
C'est-à-dire,
dire
pas seulement, non, à la Shoah et à la vie d'avant. C'est-à-dire que tous les juifs survivants des camps de concentration, tous, la majorité, disons, viennent d'endroits où le Yiddishkeit a disparu, et c'est-à-dire qu'il y a un monde disparu que eux n'ont pas connu, les enfants n'ont pas connu, que souvent les parents même n'ont pas connu, mais qui a imprimé sa force à leur fonctionnement intérieur. Et donc ce monde-là, il fallait leur restituer et lui redonner vie, puisque leur traumatisme provenait de la destruction de ce monde. Et leur guérison dépendait du fait qu'on pouvait lui redonner vie à ce monde. Et c'est ça qu'on a fait dans cette consultation.
D'accord.
Et c'est pour ça que quand on fait une consultation comme ça, ça ressemble beaucoup à ce que Devreux a fait avec Jimmy Picard. Parce que Jimmy Picard, il fait partie de la génération des Indiens qui n'ont pas connu la culture d'origine des Indiens. Lui, il a sauté sur les genoux d'un grand chef indien. En plus, c'est vrai, il est le petit-fils d'un grand chef indien. D'un grand chef indien qui, le grand chef indien, a affronté les armées, les tuniques bleues, là,
oui.
Sur les plaines, sur leurs poneys, etc. Mais lui, il n'a pas connu cette culture. Il connaît la langue, c'est tout. Mais il grandit là-dedans. Et il s'est retrouvé en face de quelqu'un qui connaissait intellectuellement cette culture, mais qui ne la connaissait pas physiquement, et qui lui l'a restituée. Et c'est de ça qu'est née l'ethnopsychiatrie.
Et qui était lui-même un déraciné.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il a aimé faire ça.
Enfin, je veux dire, il y a un fil qui est...
C'est pour ça qu'il a aimé faire ça.
Qui vous relie...
Voilà. Et donc, moi, je veux dire, j'ai tiré la leçon de ça. Devreux n'en fait pas la théorie. Moi, j'en ai fait une technique. Et Devreux a soigné un patient comme ça, un seul. Moi, j'en ai soigné des centaines. C'est-à-dire que lui, il a donné...
En recourant parfois même à des formes traditionnelles de thérapie.
Bien sûr.
C'est là où vous allez vous dépasser le maître, d'une certaine façon.
Lui, il n'aimait pas ça du tout, quoi. Il dirait que
vous faites appel à des guérisseurs.
Non, je ne fais jamais venir des guérisseurs dans ma consultation, jamais. Mais
Travaillez selon leur méthode, c'est différent, d'accord.
Soit je sais le faire, soit je ne le fais pas.
D'accord.
C'est moi qui suis le responsable de ma consultation, personne d'autre.
Hein. D'accord.
Donc j'ai toujours fait ça. Mais s'il voyait ça, Devreux, il se mettrait à hurler. Hein. Ce n'était pas du tout dans sa théorie. Sauf que les prémices sont là, dans ce bouquin-là, Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Et ce sont ces prémices que j'ai prises et que j'ai systématisées, en quelque sorte.
On va s'arrêter là, malheureusement. Merci, Toby Nathan.
Je vous en prie.
C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.